Il est 17h, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Alexis Goyer et Amanimaki qui est contrainte de repousser l'ouverture de la glace au centre sportif Gino Ojik.
La chaleur des derniers jours contraint la ville de Maniwaki à repousser quelque peu l'ouverture de la glace du centre sportif Gino Ojik. Les activités sur glace devaient débuter le 5 septembre, selon les informations annoncées par la ville. Cependant, l'organisation confirme qu'elle devra attendre une diminution des températures avant d'accueillir des patineurs. La directrice générale, Karine Aligagnon, explique que les systèmes de refroidissement de la glace, remplacés l'an dernier, permettent de conserver la glace contrairement à l'ancien système. Cependant, elle indique que la condensation à l'intérieur du bâtiment empêche d'obtenir une glace qui soit suffisamment de qualité. Voici les propos de Karine Aligagnon.
Heureusement, avec les nouveaux systèmes qui ont été installés, ça nous permet de préserver la glace qui a été faite. Par contre, dans le but de la préserver, dans le but d'avoir une glace qui est adéquate là, pour les usagers, bien, nous, on se doit quand même de fermer pour l'instant puisqu'il y a tellement de condensation à l'intérieur du bâtiment. On veut juste s'assurer de maintenir la glace.
Maniwaki réévaluera quotidiennement la situation afin d'ouvrir la glace dès que les conditions le permettront.
On regarde la situation de jour en jour là, en espérant là, qu'il y ait une diminution des températures. Dès la seconde où est-ce qu'on va avoir une diminution là, quand même considérable de la température, on va être en mesure de réouvrir. Là. Les installations sont prêtes, le lignage a été effectué.
Normalement, les activités devraient être en mesure de débuter la semaine prochaine au centre sportif Gino Ojik. Cette année, le patinage libre sera disponible les mardis et les jeudis de 11h à 14h et les vendredis de 17h50 à 19h. D'ailleurs, la ville a récemment lancé un appel aux étudiants, elle qui est à la recherche de surveillants pour le patinage libre les vendredis. Les candidatures peuvent être acheminées par courriel à l'adresse info-loisirs@commercialeville.maniwaki.qc.ca.
Il y a le responsable du dossier de l'Internet haute vitesse qui fait état de la situation dans la région.
Le gouvernement du Québec affirme que l'ensemble du Québec aura accès à l'Internet haute vitesse d'ici 2030. En ce qui concerne la MRC Vallée de la Gatineau, Québec promet que la fibre optique sera complètement installée d'ici Noël. La MRC Vallée de la Gatineau est la deuxième région après l'Abitibi-Témiscamingue avec le plus bas pourcentage d'installation de la fibre optique. L'adjoint du ministère des Finances est responsable du volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité, Gilles Bélanger, explique que l'un des ajustements qui a dû être fait dans la stratégie du gouvernement est de privilégier le branchement via satellite.
Dans la MRC de la vallée de Gatineau, là, il y a à peu près de 18 000 foyers au total. Là. Tout devrait être fibré d'ici Noël. C'est beaucoup Explore et Digicom. Puis c'est mes dernières classes au Québec en termes de pourcentage complété. Donc, il a fallu arriver avec une offre de services satellitaires.
Gilles Bélanger explique également que les distributeurs Internet avaient affirmé lors des discussions avec le gouvernement être en mesure de connecter l'ensemble de la MRC en septembre 2022, ce qui ne prenait pas en compte la géographie particulière de la région qui complique l'installation de la fibre optique.
Gatineau, c'est un secteur plus difficile d'accès, c'est montagneux. Il y a certains fournisseurs qui ont gagné les enchères qui étaient peut-être audacieux, qui ont dû apprendre... C'est pas si facile que ça, brancher 10 000 foyers puis qu'il faut dérouler la fibre sur les poteaux. Les citoyens disent « je vais avoir le service demain ». Mais non, la fibre sur les poteaux, c'est une dorsale.
L'adjoint parlementaire prend l'exemple de Starlink pour illustrer la progression de l'importance qu'a pris le branchement satellitaire dans la stratégie du gouvernement.
Au début, on a planifié moins de 10 000 foyers sous Starlink sur les 4,3 millions de foyers au Québec. Là, ça va être beaucoup plus près de, je dirais, 50 000 au Québec qui vont utiliser Starlink. Il manque 400 tours au Québec, 400 tours de mobilité. On en installe typiquement une vingtaine par année. Donc, il faut vraiment utiliser une autre méthodologie pour être capable de couvrir.
Bien que cet outil n'ait pas encore été utilisé par le gouvernement, celui-ci n'écarte pas la possibilité de sanctionner les compagnies qui n'atteindront pas leurs objectifs d'ici le 30 décembre.
On parle maintenant de la disparition de Shannon Alexander et de Macy Ojik.
Il y a 15 ans que Shannon Alexander et Macy Ojik sont portés disparus. 15 années durant lesquelles les familles n'ont cessé de chercher des réponses à leurs questions et durant lesquelles elles ont tout mis en œuvre pour garder vivante la mémoire des deux jeunes femmes. Missy Hodgick avait 16 ans au moment de sa disparition. Shannon Alexander en avait 17. Elle aurait maintenant respectivement 31 et 32 ans. Un événement incluant des danses et des musiques traditionnelles ainsi qu'un repas est prévu ce soir à Kitiganzibi afin de commémorer leur mémoire. Mardi, la mère de Missy Hodgick, Laurie Hodgick, s'est tournée vers Facebook pour inviter quiconque qui aurait des informations au sujet de la disparition des deux jeunes femmes de contacter la police ou Échec au crime. Elle a écrit « Quelqu'un sait quelque chose, deux filles ne disparaissent pas juste comme ça sans laisser de traces ».